Wit e vum Dach beim Maurice Molitor ass lo also de Mann, den an den lächten Urzing Joer d'cher Kulturfabrik geféiert huet.
Serge Basso, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'en 2002, lorsque vous êtes arrivé à la Kulturfabrik, vous aviez l'intention d'y rester jusqu'à la retraite?
Déjà, quand je suis arrivé à la Kulturfabrik en 2002, je savais même pas si la Kulturfabrik allait survivre déjà. Ouais. Donc, c'était déjà un enjeu de savoir que 18 ans après, elle serait encore là avec ou sans moi.
Donc, au moment de votre arrivée, elle ne se portait pas très bien. Je ne veux pas dire qu'elle était moribonde, mais elle n'était pas en très bonne santé.
Non, je pense quand je suis arrivé en 2002, déjà, il y avait un quart du site qui était fermé. Il y avait que 8 personnes dans l'équipe. Il y avait un projet artistique qui était un peu compliqué. Il y avait des dettes, il n'y avait pas de brasserie, le lieu souffrait, les gens souffraient, c'était voilà. Et en plus, il y avait une évolution du territoire au niveau national culturel qui était important, puisqu'il y avait la Rocale qui arrivait, il y avait Neumünster qui allait se construire, donc ils n'étaient plus les seuls. Mmh. Quand ils étaient un peu les seuls, c'était comme ça. Donc c'était vraiment une situation hyper difficile, oui.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est un lieu, je dirais pas, c'est un lieu institutionnel, on peut le dire comme ça, qui a gardé son âme alternative, ça c'est très sûr, mais c'est plus un lieu du tout en difficulté. Tout le site est ouvert, tout le site potentiellement qu'on peut ouvrir est ouvert, la brasserie fonctionne, il y a un projet artistique, il y a 30 personnes dans l'équipe, il n'y a plus de dettes, il y a un budget, il y a 250 manifestations par an, il y a une équipe, donc ça n'a plus rien du tout à voir avec la Kulturfabrik d'il y a 2002.
Donc vous avez réussi à donner un nouveau souffle au centre culturel, ensemble, pas seul, mais ensemble avec votre équipe, avec vos équipes.
Oui, je pense qu'on a réussi non seulement à... On a fait deux choses, on a réussi à sauver ce lieu et on a réussi à le développer et à le pérenniser, ça c'est très clair.
C'est surtout le site, l'abattoir qui est l'âme en fait de la Kulturfabrik, n'est-ce pas ?
Oui, il y a deux types d'âmes, je pense, dans ce lieu. Il y a l'âme du travail qui s'est fait avant la Kulturfabrik, c'est-à-dire tout ce passé ouvrier, abattoir, etc. Et puis il y a toute l'histoire de cette Kulturfabrik, avec le squat, avec l'occupation de la rue, avec l'impact qu'elle a eu aussi sur la vie culturelle du pays. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus de la Kulturfabrik et qui sont ailleurs, soit dans le cinéma, soit dans les lieux culturels. C'est quand même, je pense que dans l'histoire culturelle du pays, il y a quelque chose d'emblématique dans cette salle. Ça, c'est très clair.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est une vraie institution, vous l'avez dit, donc plus personne ne remet en cause le droit d'exister de ce que Adi Jung, ancien conseiller communal à choix du CSV, avait appelé ou qualifié de rat, l'art.
Non. Le trois rats existe, mais sous forme de café maintenant,
voilà,
chez nous, c'est ça.
Sur le site,
non, qui pourrait remettre en cause la Kulturfabrik. Enfin, je veux dire, on a une grande dimension locale, nationale et même transfrontalière, 250 manifestations par an, à la fois un travail artistique, à la fois un travail de création, un travail d'accueil, mais aussi de formation de public, de réflexion. Et puis, c'est quand même un lieu militant, vraiment, au sens où c'est vraiment un lieu qui interroge le monde dans lequel on vit. Je crois que c'est quand même une programmation là-dessus qui est très claire et c'est vital.
C'est voilà. Ça la spécificité de la Kulturfabrik dans le monde culturel luxembourgeois?
Oui, je pense. On n'est pas les seuls, mais je pense qu'en tout cas, s'il y a bien une chose qui nous caractérise, c'est cette volonté de faire des choses qui ont du sens systématiquement. On fait vraiment de l'art qui a du sens, on a vraiment envie d'interroger, on a envie de travailler avec des publics. Il y a aussi la dimension collaboration qui est énorme à la Kulturfabrik. Beaucoup de partenaires. Sur une saison comme 2019, c'est plus de 130 partenaires sur des actions, c'est pas mal quand même. Mmh. À la fois institutionnel, associatif, éducationnel, voilà. Je crois que c'est un lieu d'écoute, un lieu d'échange. Il y a aussi une équipe extraordinaire. Une équipe de gens militants qui aiment le lieu, qui ont envie, qui discutent, qui travaillent.
Et qui restera en place malgré votre départ, parce que le passage, ça s'est fait...
Oui, je pense qu'on est assez exemplaire sur la transmission de direction dans cette maison. René Penning, qui est le nouveau directeur, a été pendant 10 ans le directeur administratif de la maison. Et j'en étais le directeur artistique, alors qu'au départ, j'étais tout seul, le seul directeur. Enfin, je veux dire, voilà, on s'est partagé les choses. Moi, je m'en vais, lui reprend les rênes. Ça se fait en douceur et je pense que même dans l'équipe, c'est une passation des plus exemplaires, oui.
Bon, vous n'êtes plus directeur, mais vous n'êtes pas encore tout à fait à la retraite. La vraie retraite ne fera que commencer le 1er janvier prochain. Jusqu'à la fin de cette année, vous continuez à travailler sur un projet de stratégie pour la Kulturfabrik. Est-ce qu'il faudra s'attendre à des changements majeurs ?
Non, je pense que voilà, je pense que la Kulturfabrik sous mon règne, on va dire ça comme ça, était arrivée à un point où il fallait redéfinir le projet pour les 10 prochaines années. On était complètement actifs un petit peu partout, il fallait recentrer le travail, les équipes, et c'est pas moi qui pouvais le mener, c'est clair, j'avais 60 ans, c'était quelqu'un d'autre, donc on s'est mis on a demandé à des experts extérieurs et non luxembourgeois et internationaux, de nous aider à réfléchir sur le sens, sur le projet de cette maison, à la fois sur le plan artistique, à la fois sur le plan de la création, à la fois sur le plan du fonctionnement, sur le plan des équipes, sur le plan de la gestion, enfin sur tous les plans, y compris le conseil d'administration, la réflexion. Donc c'est vraiment une réflexion globale sur comment faire évoluer ce lieu dans les 10 prochaines années. Voilà, donc la stratégie en route, c'est une réflexion qu'on a commencé à mener, que je ne terminerai pas, que l'équipe va faire, mais qui est déjà bien entamée, oui.
Et elle aura l'air de quoi, cette nouvelle stratégie ?
Elle aura l'air d'un document, je pense, écrit, qui donnera des idées sur la façon de faire fonctionner, sur la façon de faire travailler, sur la façon de faire évoluer cette maison, à la fois sur le plan interne, à la fois sur le plan local, national et transfrontalier, à la fois sur le plan artistique, à la fois sur le plan du fonctionnement, à la fois sur le plan de la gestion, voilà, etc. etc.
Mais on reconnaîtra toujours l'esprit Koufa.
Ah bah ça, c'est très clair, oui. Je pense que s'il y a bien quelque chose dans la stratégie qui je ne vais pas la dévoiler maintenant, ça serait quand même pas bien par rapport au futur et par rapport au travail en cours. Mais c'est clair que l'idée d'engagement, c'est clair que l'idée de regard sur la société, c'est clair que sur la façon de gérer une équipe et sur la façon de travailler collectivement, c'est des choses qui resteront fortement ancrées, oui, j'en suis sûr.
Mais donc, à la fin de l'année, l'aventure se terminera pour de bon pour vous. Vous allez donc partir à la retraite, et cela 12 mois avant le lancement de ESH 2022, capitale européenne de la culture. C'est quand même étonnant qu'un acteur d'une institution majeure de la région concernée quitte son poste à quelques mois d'une telle échéance.
Oui, alors, je vais être très clair avec vous, la raison qui fait que je suis parti plus tôt, c'est pas des raisons professionnelles. Voilà, on va dire que j'ai eu des événements de vie un peu compliqués ces derniers temps. J'ai été sauvagement touché par le Covid. Voilà. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le sens de ma vie. Quand je me suis retrouvé branché de partout, en soins intensifs, etc., etc., avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir derrière, y compris celle de sa propre mort, pour être très très clair. Ça m'a fait réfléchir sur le sens de ma vie et j'ai un peu anticipé ma décision. Je devais partir fin 22 et j'ai décidé de me laisser vivre. Voilà. C'est la raison qui fait que je pars plus tôt, principalement, c'est une raison d'un événement de vie. Voilà.
Donc vous étiez vraiment sévèrement touché par ce virus?
Ah oui, complètement. Oui, bien sûr. Oui.
Et là, donc c'était au mois de mars?
Ça m'est arrivé le 24 mars, deux jours après mon anniversaire.
Oui. Et là, vous avez l'impression d'être complètement remis?
Ah, complètement, oui, bien sûr.
Il ne reste plus de séquelles?
Bah, je pense pas, non. J'ai fait des tests, en tout cas, de souffle, voilà, je remarche beaucoup, je suis allé marcher, j'ai repris des activités normales, voilà. Maintenant, personne ne sait à long terme ce que cette bête fait dans votre corps, mais pour l'instant, en tout cas, officiellement, voilà, j'ai des poumons à refaire, ça c'est très clair, mais ça se refait vite dans mon cas, en tout cas.
Et ça s'était manifesté de quelle manière, si je peux vous poser la question? C'était les symptômes classiques dont on parle?
Oui, j'ai commencé à avoir, à tousser, à avoir des problèmes de respiration, mais j'avais pas de fièvre, donc on m'a demandé de rester à la maison. Et puis un jour, je suis monté en quelques heures à 41 degrés de fièvre et d'urgence, et voilà, oxygène. Je suis resté cette semaine sous oxygène.
Oh là là.
Voilà. Bien. Donc c'est la raison qui fait que c'est une raison de vie.
On peut quand même parler un peu de ESH 2022. Est-ce que vous croyez au succès de cette année culturelle? Est-ce que ESH et ses environs, tout le sud du pays, même peut-être la région frontalière, en profiteront durablement?
Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. J'en sais rien. Mais j'espère. Non, je ne sais pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Moi, je ne les connais pas, je ne suis pas dans l'H22. Je sais que certains partenaires attendent sauvagement les réponses pour savoir quel financement ils ont. Après, moi, je ne sais pas quelle va être la globalité des projets qui sont retenus. Je sais que sur la culture fabrique, on avait à un moment donné 8 projets, et que pour des raisons de timing, simplement, on n'a pas pu les mener à bout, parce que les artistes... Voilà. Mais depuis, nous avons d'autres projets qui sont en route avec d'autres partenaires. En tout cas, ce qui est intéressant dans une capitale européenne comme 2022, c'est ce que ça va apporter en 2032. C'est-à-dire pour moi...
Donc c'est dans 10 ans qu'on verra si c'était un succès ou non?
Je pense que le rôle d'une capitale européenne, c'est d'être un projecteur, un accélérateur de projets structurant le territoire au niveau culturel. Voilà. Donc j'espère que c'est ce type de projet qui vont ressortir. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux rien vous dire, je ne les connais pas.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est mal parti quand même? Parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'on parle de H2022, c'est rarement dans un contexte positif.
Oui, ça c'est clair que depuis voilà. Mais en plus, c'est l'eau de toutes les capitales européennes. C'est pour ça que regardez ce qui s'est passé à Malte, regardez ce qui s'est passé partout. Oui, oui, bien sûr, il y a des polémiques, il y a eu des équipes qui sont passées, il y a des gens qui sont déçus. Oui, bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas dire que l'image soit très positive. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne sais pas. Vraiment, là, j'avoue sincèrement, je ne sais pas.
Voilà. Encore récemment, il y a eu cette décision de la CUFA de se retirer ou de retirer un certain nombre de projets de cette année irréalisables parce que les décisions traînaient.
Oui, bien sûr. On avait 8 projets importants à une époque, mais ça demandait un travail en amont à la fois en timing, mais à la fois aussi en réservation d'artistes, on va dire ça comme ça. Et n'ayant pas les réponses adéquates, on n'a pas pu les faire, donc on les a retirés. Voilà, c'est simplement un problème de timing, et que depuis, on s'est recentré sur d'autres projets, d'autres collaborations. Voilà. Ouais. Moi, je suis toujours un peu déçu que ces projets n'aient pas lieu, mais voilà, c'est le lot d'une capitale européenne. C'est le lot de gens qui partent trop tôt. C'est-à-dire que nous, on était vraiment prêts.
Ouais.
Mais on n'était pas H2022, donc on était nous qu'un lieu culturel. Mais je veux dire, on a beaucoup sauté sur l'occasion quand ce projet est arrivé parce que c'est effectivement une chance, une capitale européenne. C'est une chance énorme sur une structuration de territoire, c'est une chance énorme sur le développement des lieux. Donc nous, tout de suite, on s'est mis au travail.
La CUFA était prête trop tôt et H22
oui,
trop tard.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est vraiment un problème de timing à un moment donné et que nous, on était sur des projets de énormes avec des artistes, voilà, et on devrait déjà être en train de travailler. Or, si on n'a pas de réponse, on ne peut pas. Donc voilà, c'est cette réalité-là. Je ne sais pas si c'est nous qui avons eu raison ou eux qui ont eu tort, c'est simplement cette réalité-là qui fait que... Mais moi, je regarde toutes les capitales européennes qui se passent actuellement. On regardait Malte, regardait ailleurs. C'est souvent comme ça, des équipes, des changements d'équipe, des choses, voilà. Moi, je leur souhaite sincèrement de réussir. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions sur le fonctionnement, sur les choses comme ça. Mais voilà, moi, je suis pas à l'interne, donc j'en sais absolument rien. Je ne suis que le directeur de la Culture Fabrique.
Mein invité de Moïna Stelang, hier, est directeur fondateur à la Culture Fabrique de Serge Basso. Tôt ou tard, vous aurez un peu plus de temps à consacrer à vos loisirs, monsieur Basso. Vous allez vous remettre à l'écriture. Enfin, vous remettre, vous n'avez jamais vraiment arrêté.
Non, disons que je ne mettais pas ça en avant. Ouais. Dans ma vie luxembourgeoise et professionnelle, je ne me faisais pas lire ici, etc., etc. Oui, bien sûr, je vais profondément écrire. Je vais d'ailleurs sortir dans une bonne maison d'édition à la rentrée. Je vais continuer à écrire la suite des Polars avec Enrico Lunghi. Voilà, bien sûr.
Donc vous écrivez d'un côté des poèmes, des aphorismes.
Oui, poèmes, aphorismes.
Peut-être un roman.
Ah, vous êtes bien au courant, c'est très bien. Oui, j'ai une idée de roman, voilà, donc je vais m'y mettre, c'est quelque chose de nouveau. Et puis bien sûr, ce travail d'écriture à quatre mains avec Enrico, qui est un vrai plaisir.
Qui est un ami de longue date.
Oui, 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 on a une grande amitié avec Enrico et j'ai été profondément touché par ce qui lui est arrivé. On va pas revenir sur cette histoire-là, mais voilà, mais non, bien sûr, il y a une grande amitié. De toute façon, écrire à quatre mains, si on n'est pas amis, on ne peut pas le faire.
Et puis, vous vous lancez dans la politique communale de votre ville, Longwy. Vous êtes candidat sur une liste apparentée socialiste. Le second tour aura lieu dimanche prochain.
Oui.
Alors, j'ai regardé encore ce matin, il y a exactement 25 kilomètres qui séparent Longwy et Esch. Et pourtant, c'est deux mondes différents, non?
Oh, complètement, oui. Longwy est une des villes les plus pauvres de France. Donc, je me suis dit, tu es en retraite, tu as un certain savoir-faire sur la culture. Je pense que c'est une ville qui a besoin de se développer. Et c'est clair que sans culture, les territoires ne se développent pas. Donc, je pense que c'est bien de mettre son savoir-faire au service d'un territoire quand on part en retraite. Voilà. Je vais pas avoir le même investissement qu'en tant que directeur de Culture Fabrique. Il y a des professionnels sur le terrain. Mais en tout cas, si mon savoir-faire, mon analyse et mes réseaux peuvent servir à développer cette ville qui en a besoin, c'est volontiers que je le fais. Je pense que c'est un acte citoyen fondamental. Et puis, ça permet aussi de faire des choses dans sa retraite. On va pas non plus rester qu'à regarder passer les nuages, même si j'aime ça. Hein.
On suivra les élections d'autant plus. Merci beaucoup, Monsieur Basso.
Je vous en prie. Merci.
D'être venu chez nous ce matin. Merci.
Merci.
An Orlo ënner dem Serge Basso segem Nofolger dem René Penning als Kulturfabrik eng interessant Platz. Ich wollte mal den Weekend die neue Sommerbar angucken. Wirklich super, was sie da zusammen gebaut.